pour cette introduction. Nous, on va s'en tenir aux 20 minutes qui étaient prévues, notamment parce qu'on aimerait bien privilégier les échanges avec vous. Et on va présenter, du coup, par rapport à la présentation précédente, quelque chose qui est une approche sans doute un peu plus politique de la chose, mais politique au sens large. Bon, vous allez voir. Donc en fait, nous, on est membre du collectif pour une convention citoyenne pour le climat en Auvergne-Rhône-Alpes. Et convention citoyenne pour le climat est un peu le terme marketing, entre guillemets, qui est consacré par l'expérience qui a été menée au niveau national. Mais du coup, on pourrait parler, tout simplement, du point de vue technique, on pourrait parler finalement d'une assemblée citoyenne tirée au sort. Qui a pour objet de se pencher sur des questions ayant trait à l'environnement et au climat. Donc ce projet, il naît fin juin, finalement, lorsque sont publiées, en fait, tout simplement, les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat national, et où déjà on commence un petit peu à percevoir ce qui s'est concrétisé très récemment dans la loi climat, à savoir que la promesse de reprendre sans filtre les propositions qui émaneraient de l'Assemblée ne serait pas tenue, quoi. C'était à l'époque un petit peu des jokers, mais on sentait que bon, ça n'allait pas vraiment partir dans le bon sens. Et en fait, on part d'un constat assez simple, c'est que d'abord, les propositions qui sont sorties de la Convention citoyenne, elles font avancer significativement les choses. Il y avait vraiment un enjeu là-dessus, parce que avoir une Assemblée citoyenne tirée au sort, qui formule comme ça des recommandations politiques sur un sujet qui est large, qui est complexe, etc. Il y avait un vrai défi, et puis on pouvait se demander si ça allait réussir ou pas. Et là, pour le coup, le pari qui a été lancé par Démocratie Ouverte et par d'autres, il a été largement tenu, parce que en fait, vous avez un ensemble de propositions qui font consensus, qui font avancer les choses d'après les experts, et qui, en plus de ça, il y a toujours un petit peu sur l'écologie cette question de savoir est-ce que les gens vont accepter de perdre leur confort. Alors, bon, en réalité, souvent, on gagne en confort, mais on a au final, il y avait un sondage après qui disait que 60% des Français, finalement, approuvaient les propositions, les recommandations faites par la Convention citoyenne pour le climat, et dans tous les cas, il y avait 81% dans ce même sondage qui voulaient un référendum sur ces questions-là. Donc on avait quand même une sortie qui était plutôt positive, surtout dans un contexte où la démocratie semble un peu engluée dans des tas de problèmes un petit peu en panne. Donc là, on avait quelque chose qui avait de quoi lancer une dynamique démocratique un peu nouvelle. Mais il y a effectivement, on peut constater dans le négatif un peu un manque de contrainte finalement sur l'exécutif qui avait finalement toute latitude pour contourner ces recommandations et faire des promesses qui n'engageaient, comme on dit, que ceux qui les croient. Et donc finalement présenter des projets qui sont jugés assez sévèrement par les membres de la Convention eux-mêmes. Donc on a commencé à se rassembler à quelques-uns autour de cette question, et il y avait deux enjeux. C'était justement de reproduire cette expérience dans ce qu'elle avait d'encourageant, et finalement un petit peu d'en normaliser la pratique, parce que du coup, justement, comme il y a eu des choses encourageantes, ben, autant le refaire, vu que c'est quelque chose qui marche. Mais du coup, en apprenant des leçons de ce qui s'était fait et en obtenant pour cette assemblée, finalement, plus de contraintes sur le pouvoir exécutif, tout en gardant en tête, bien sûr, que le mandat impératif est de toute façon inconstitutionnel et, en plus de ça, est très certainement pas souhaitable. Enfin, c'est mon avis personnel, mais après, voilà. On pense quand même qu'il faut laisser une certaine latitude aux représentants élus, que ça ne peut pas être non plus une assemblée citoyenne tirée au sort qui décide de tout. Voilà. Et donc, pour ça, il y avait les élections régionales, tout simplement. Il y avait le calendrier qui nous donnait en fait l'occasion de mettre le sujet sur le tapis en proposant justement la création d'une convention citoyenne à l'échelle régionale. Et avec l'objectif, du coup, d'en faire un objet qui puisse avoir une pression, exercer une pression politique un peu plus importante. Donc pour ça, on a établi une méthode et un objectif qui était en fait de construire un ensemble de demandes sur la forme que doit prendre cette convention citoyenne et que ces demandes aient une légitimité qui ne puisse pas être ignorée par le politique ensuite. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a cherché à obtenir de la part de citoyens, de la part d'associations, leur avis sur la forme que devait prendre cette convention citoyenne. Donc en fait, l'objet de notre collectif, c'est de rassembler ces demandes, de collecter ces demandes et de les rassembler dans un document, dans ce qu'on a appelé un document de cadrage, qui est en fait une synthèse qui est discutée entre tous les contributeurs et ensuite qui est validée entre tous les contributeurs qui disent, bon, bah d'accord, ça c'est... voilà, ce document, il décrit en fait le mandat de la convention, son rapport à l'exécutif, tout un tas de choses que Juliette va pouvoir décrire après. Mais du coup, l'idée, c'est qu'on ait ce document de cadrage qui soit endossé par les gens qui l'ont rédigé et qui exprime finalement, en sortant pendant la campagne pour les régionales, une forme de ce qu'un certain nombre de citoyens veulent comme convention régionale pour le climat. Donc notre action, elle est cadrée par un manifeste, qui est un texte en fait, qui est publié sur notre site et qui cadre notre action, donc qui donne le contexte, il donne les objectifs et les moyens qu'on se donne pour les réaliser. Et en fait, en définissant clairement ces objectifs en amont, on pose le cadre pour permettre à des associations et à des gens en fait, à des citoyens qui sont assez différents, qui ont tous et tout un intérêt quand même pour les questions environnementales, mais qui ont des terrains d'action qui sont assez différents, parce qu'en fait, le manifeste, il situe notre action sur le terrain vraiment de la réflexion démocratique sur ce que doit être notre démocratie, et donc c'est le terrain finalement politique au sens large, qu'est-ce que doit être le système politique dans lequel on vit, quoi. Donc il y a des associations sur le climat, la biodiversité, la consommation, le nucléaire, l'action locale, etc. Donc, on est rassemblés sur une plateforme commune en ligne, qui est en fait un serveur Discord. Et on a organisé en 4GT, ça c'est pareil, je vais laisser la parole à Juliette. Et avant, je vais juste finir pour vous donner un petit peu la chronologie. On s'est rassemblés, donc en juin, on a commencé à lancer ça. On s'est rassemblés sur Discord en septembre. On a commencé à lancer un formulaire pour recueillir des contributions en novembre. Et on a lancé une dynamique vraiment à plusieurs à réussir à rassembler plus d'associations en décembre, janvier. On a fait une conférence de presse, on a réussi à avoir un petit peu de retombées presse, on était content, on a pu être invité au JT de France 3, on a pu avoir des retours dans des journaux locaux. Donc on a pu justement faire passer l'information qu'il y avait un processus de collecte qui était en cours et inviter les gens à y participer. Et ce process, il s'est terminé le 15 mars et on est en train de travailler justement à la synthèse du document de cadrage qui devrait paraître mi-avril à peu près. Voilà, Juliette, je te laisse la parole.
Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Juliette Berthet. J'ai rejoint le collectif au mois de décembre pour représenter à la fois FNE, donc France Nature Environnement Rhône, et FNE Auvergne-Rhône-Alpes. Donc moi je vais plutôt vous parler de la manière dont est organisé le collectif et puis des différents niveaux d'engagement qu'il peut y avoir au sein du collectif. Donc pour l'organisation, comme a commencé à en parler un peu Andy, donc il y a quatre groupes de travail. Le premier groupe de travail, c'est le groupe de travail ressources, qui lui va plutôt avoir pour rôle de récupérer des documents sur le web, sur comment organiser une convention citoyenne pour le climat, ou des documents sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ses compétences, les documents de planification comme le Sraddet, enfin voilà. Après, il va aussi y avoir un groupe communication, donc là qui va vraiment gérer tous les aspects communication sur les réseaux sociaux. Et dans ce groupe de travail, il y a un genre de sous-groupe pour tout ce qui est presse, qui a été particulièrement actif suite à la conférence de presse du 14 janvier. Il y a aussi donc le groupe de travail secrétariat, dont l'énorme travail, ça a été de compacter toutes les contributions pour en faire un seul document, qui ensuite va être arbitré là d'ici peu par les différents contributeurs. Et enfin, le dernier groupe de travail, c'est celui qu'on appelle le groupe de travail élargissement diffusion, qui lui a servi à vraiment amener d'autres associations, d'autres organisations au sein du collectif. Donc ça a été un énorme travail. Parce qu'il a fallu contacter les différentes organisations susceptibles d'être intéressées. Et ce qui est assez marrant, c'est que à chaque fois qu'une organisation rejoignait le collectif, on avait d'autres organisations qui suivaient, parce qu'en général, une organisation, elle a son réseau à elle, et ensuite, elle permet de faire entrer d'autres associations dans le collectif. Ça fait un genre d'effet boule de neige. Donc après, il faut savoir que dans le collectif, il n'y a pas que des lois, des associations de loi 1901, il y a aussi des personnes individuelles qui viennent prêter, qui viennent aider le collectif. Donc après, il faut savoir que chaque groupe de travail peut s'organiser un peu comme ils le souhaitent. Ils peuvent organiser des réunions à un rythme qui leur convient. Mais par contre, ce qui est important, c'est que les lundis, toutes les deux semaines, à 18h30, on se réunit sur le Discord. Il y a une réunion générale qui réunit toutes les personnes qui sont assez actives sur le Discord et qui suivent vraiment le projet de près et qui ont vraiment un vrai engagement, même en termes de temps, pour le projet. Donc, lors de ces réunions, ça permet vraiment à tout le monde de participer. On part du principe qu'à partir du moment où on s'est engagé, où on donne de son temps, tout le monde a le droit à la parole. Pour avoir une légitimité à parler, il faut juste s'investir en temps dans le projet. Donc, on en profite aussi pour faire un point sur les groupes de travail, ce genre de choses, et pour prendre des décisions si c'est nécessaire. De manière collégiale, il n'y a pas de personne qui a plus de poids qu'une autre. Aussi bien si on est président d'une association que si on est simple personne qui vient juste par intérêt du sujet pour parler en tant que personne individuelle. Elle aura autant de poids tant qu'elle est investie dans le projet. Donc, comme vous l'avez vu avec Andy et puis avec ce que je viens de vous dire, on utilise beaucoup les outils numériques. Donc, Discord, on utilise aussi Telegram et l'essentiel de notre communication repose sur les réseaux sociaux, même si suite à la conférence de presse, il y a eu quelques articles dans la presse écrite, une grosse partie de notre communication en tout cas repose sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, donc maintenant je vais vous parler plutôt des différents niveaux d'engagement qu'il y a au sein de notre collectif. Donc le premier niveau qui ne demande pas énormément de temps, c'est celui de relayer nos messages sur les réseaux sociaux et éventuellement de signer la pétition en ligne. Ensuite, il y a ceux qui ont contribué à la note de cadrage. Donc là, ça a demandé quand même un gros travail, surtout que certaines personnes représentaient un collectif, donc elles ont dû faire aussi un travail en amont avec leur organisation ou leur association pour dire est-ce que ça vous convient? On réfléchit ensemble, on propose un document ensemble. Donc c'était assez un travail assez important. Et du coup, donc il y avait un formulaire sur notre site internet avec 7 questions et il fallait répondre aux 7 questions. Donc les 7 questions, elles étaient vraiment très pointues. Donc il y avait définir le mandat de la Convention citoyenne pour le climat. Donc après, il y avait aussi quels engagements étaient souhaités de la part du Conseil régional vis-à-vis des propositions qui seraient faites suite à la Convention citoyenne. Quels acteurs seraient souhaités pour piloter le comité de pilotage? Comment on souhaiterait que le tirage au sort se déroule? Quels facilitateurs les différentes associations souhaiteraient voir en place, voire même est-ce qu'il y a besoin de facilitateurs? Le calendrier avec le nombre de sessions souhaitées, le rythme, donc ça c'était une autre question. Et enfin, quels experts on souhaitait voir présents lors de cette Convention citoyenne pour le climat pour présenter les différentes informations aux citoyens tirés au sort. Donc comme vous l'avez vu, c'est quand même des questions qui sont très précises. Mais je pense, c'était nécessaire dans le sens où si on avait vulgarisé, on aurait eu sûrement plus de biais. Alors que là, on a vraiment l'image finale avec en regroupant toutes les contributions de ce à quoi devrait ressembler cette Convention citoyenne pour le climat selon les avis de toutes ces personnes qui ont contribué, que ce soit des organisations ou des personnes à titre individuel. Alors il faut savoir quand même qu'après il y a un troisième niveau d'engagement, c'est celui des personnes qui animent vraiment la démarche, qui sont présents sur Discord, aux réunions et qui vont vraiment donner de leur temps toutes les semaines pour le collectif. Et qui vont porter certains petits projets. Par exemple, on a organisé un tournage un samedi avec une prise de photos du collectif. Donc là, c'était quelque chose qui nécessitait plus de temps que les autres niveaux d'engagement que je vous ai mis en avant tout à l'heure. Et enfin, le quatrième niveau d'engagement, quelque part, c'est celui que peut faire tout citoyen au moment d'aller aux urnes pour élire les conseillers régionaux en éventuellement choisissant une liste parce qu'ils portent notre projet. Peut-être que ça aidera certains citoyens à se décider pour telle ou telle liste. Ça les incitera peut-être à voter pour telle ou telle partie avec ce projet dans leur programme. Donc après, vous avez vu, donc je vous ai parlé de ceux qui ont contribué et de ceux qui animent vraiment la démarche. Faut bien les différencier parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont contribué qui ne font pas forcément partie des personnes qui animent la démarche. Voilà, et puis pour conclure, ce que je trouve important de souligner, enfin c'est quelque chose qui en tout cas me tient à cœur et que j'apprécie beaucoup dans cette démarche, c'est que c'est vraiment collégial, que chacun a le même pouvoir de parole à partir du moment où on est investi dans la démarche. On peut donner son avis et tous les avis sont respectés. Il n'y a pas de concurrence entre les associations pour faire entendre plus sa voix qu'une autre. Vraiment, tout le monde est sur un pied d'égalité et c'est quelque chose qui fait qu'aussi ce collectif fonctionne bien à l'heure actuelle. Voilà, j'en ai terminé du coup.